Bonjour, voici une nouvelle émission de Par ici les sorties, avec peu de sorties cette fois-ci, parce que le titre de l'émission, j'aurais envie de l'appeler « La musique peut-elle être messagère de la paix ?» sachant que le mois de décembre est un mois où on a tendance à rester chez soi et à réfléchir. Alors, en plus, je voudrais dire, parle-t-on alors, quand on parle de musique, est-ce qu'on parle de musique profane ou religieuse? Ça, c'est la deuxième question que je voudrais poser. Et d'abord, bien sûr, qu'est-ce que c'est la paix? La paix est le contraire de guerre, bien sûr, mais il faut aller un peu plus loin dans sa définition, je pense. C'est vrai que l'humanité traverse actuellement une période d'angoisse et d'incertitude. Cela va même tellement vite qu'un jeune nous dirait déjà, à l'heure actuelle, le monde n'est plus ce qu'il était. La société tout entière est en quête d'identité et ne trouve plus la voie vers le dialogue qui, sociologiquement, devrait aplanir les difficultés inhérentes à la vie en communauté. L'individu exprime un besoin de paix, un état d'esprit serein qui peut devenir un but de vie. Mais alors, s'agit-il d'un souhait individuel ou pour tous? Le choix est alors inéluctable. On cherchera à conjuguer espoir d'épanouissement personnel avec le devenir de notre société. Là-dedans, la culture est l'expression humaine la plus évidente pour casser les barrières sociologiques et rassembler les peuples. La musique, dont nous souhaitons parler aujourd'hui, y aide aussi. Elle est un moyen et un outil d'expression universelle qui permet la communion et le partage, l'union avec les autres, avec l'environnement, et le partage de sa richesse intérieure. Évidemment, je pourrais parler de Voltaire, du Dalai Lama ou de Gandhi, mais je voudrais citer Martin Luther King, qui disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir comme des idiots. » On y reviendra un peu plus tard avec Beethoven. Le musicien, aux prises avec les mêmes questions identitaires et d'attitude, transmet le langage de la musique avec son cœur. Ainsi, la musique, qu'elle soit profane ou religieuse, se lève vers le ciel et crée l'espérance. L'espérance de la paix, qui peut être intérieure et personnelle, ou tournée vers la société. Alors, réfléchissons déjà à ça. Écoutons le Pieux Jésus du Requiem de Forêt, un compositeur que l'on dit non-croyant. Et pourtant, quand on écoute ça, alors ici par Philippe Jaroussky.
Thank you.
Vous venez d'écouter un extrait de Pio Gesù des Requiem de Forêt par Philippe Jaroussky, qui va bien au mois de décembre. Et peu importe que l'on soit croyant ou non, mais dans une église, on est plus réceptif à la paix que dans une salle de concert. Je pense qu'on a tous vécu ça. Alors se pose la question, musique profane ou exclusivement religieuse? La musique instrumentale au temps biblique était primordiale dans l'adoration. La musique était associée à tous les aspects de l'existence. On chantait et on jouait au jour de joie comme au jour de deuil. On le faisait au culte, au foyer et pendant les travaux au chant. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Et quelle est la place de la musique dans l'Église? Quel est le rapport du chrétien avec la musique et les nouvelles formes musicales qui vont du jazz en passant par le rock, le rap, etc.? Dans l'Ancien Testament, il est fait mention de la musique il y a plus de 4000 ans dans les premiers textes de la Bible. Dans la Genèse, on dit « Yubal fut l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau ». Dans le Nouveau Testament, il n'est pas fait mention d'instruments de musique, seulement quelques références au chant, comme dans Matthieu, il chante les psaumes de la fête. Ça, c'est après la scène. Au cours du IVe siècle, le concile de Laodicée interdit aux laïcs le chant dans les églises. Certains protestent, mais il faut attendre le VIe siècle pour que le chant grégorien apparaisse. Puis, du IXe au XIIIe siècle, les chants polyphoniques. Pendant cette période également, la musique instrumentale apparaît dans l'Église et elle est déjà bien développée à l'extérieur. Mais pendant quelques siècles encore, on se pose la question si la musique instrumentale est bien adaptée à la musique religieuse. Ce n'est qu'à la Renaissance et au XVIe siècle, à la Réforme, grâce à Luther, donc, que l'on entend parler de motets et psaumes chantés et joués. Jouer surtout. Après la mort de Bach et de Handel, donc deuxième partie du XVIIIe siècle, on voit la musique religieuse décliner. Le rationalisme de l'époque aidant, la musique profane prend alors de l'ampleur. Si au XIXe siècle, on voit apparaître quelques compositeurs spécialisés dans la musique religieuse, le fossé continue à se creuser entre musique profane et religieuse. Sauf peut-être dans les églises protestantes plus ouvertes aux compositeurs qui sont alors dans l'esprit du temps. Au XXe siècle, à côté de l'évolution de la musique classique, on voit naître le jazz, les gospels, les spirituels, puis des musiques avec une prépondérance pour les aspects rythmiques, disons, et donc des instruments de percussion, je pense au rock, le new wave, le hip-hop, etc. Voilà, après cet exposé un peu historique, y a-t-il donc une différence entre la musique instrumentale religieuse et profane? Apparemment aucune, car aux yeux de Dieu, tous les styles musicaux sont bons, au même titre qu'il y a beaucoup de variétés de fleurs et de fruits. Dans les Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit « Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon ». Alors pourquoi ferait-on une différence? Pour vous faire une idée et pour revenir à notre réflexion sur la paix, je vous propose d'écouter deux extraits. Une musique chrétienne actuelle, enfin actuelle du XXe siècle, disons, puis une musique profane qui prône la paix entre les peuples, la fin du 9e symphonie de Beethoven qu'on connaît tous comme Ode à la joie.
Célébrer sa victoire et la joie de son règne. Célébrer dans l'espoir. Sa gloire nous revienne, célébrer. Aujourd'hui, notre Saint.
Alors, il est temps de parler paix. Deux hommes juifs, Yehudi Menuhin et Daniel Barenboim, ont œuvré pour la paix. Yehudi Menuhin est mort en 1999 à 82 ans, donc il a bien vécu la guerre. Il fut l'ambassadeur de la paix. Il était enfant prodige au violon, une sorte de virtuose en culotte courte qui déjà révèle l'essence de la musique et dont Einstein disait, après l'avoir entendu, « Maintenant, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux. » C'était un homme de toutes les origines, un citoyen du monde déjà, et il s'engage à côté des forces alliées pour y donner plus de 500 concerts pendant la guerre, y compris une tournée avec Benjamin Britten en 1945. Mais, chose extraordinaire, il joue aussi avec Wilhelm Furtwängler, qui est resté à Berlin pendant la guerre et que menace un procès. Menuhin dit « Vous devriez savoir que rester à son poste requiert souvent plus de courage que de déserter. » Et ils jouent ensemble à Berlin en 1947, donc deux ans seulement après la guerre, le fameux concerto opus 61 de Beethoven pour sceller la paix. Et franchement, pour moi, ce concerto est resté un modèle pour la paix. Donc écoutons un extrait.
Thank you.
Que c'est beau et évident après cette écoute que la musique part vers le ciel et donne l'espérance. Vous venez d'écouter un monument de la musique classique et très historique, Yehudi Menuhin et Wilhelm Furtwängler à Berlin, qui jouent ensemble en 1947. On sait bien sûr que les Juifs ont beaucoup souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais est-ce la raison que deux de leurs plus grands musiciens, Yehudi Menuhin et Daniel Barenboim, se sont engagés pour la paix? Bon, probablement ça a joué. Mais faut-il donc souffrir pour réagir, pour travailler à l'idée de la paix? J'ai envie de dire, n'attendons pas de souffrir et prenons-en de la graine, chacun à sa façon. Daniel Barenboim est plus jeune. Il est né en Argentine en 1942, donc en plein milieu de la guerre. Et il a œuvré beaucoup pour la paix entre Palestiniens et Israéliens après la guerre. Jusqu'à réussir à leur faire jouer du Wagner, donc un antisémite notoire, ensemble. Mais en réalité, ne trouvez-vous pas que dans ce bout du monde, c'est un peu comme chez nous, c'est le manque de cohésion sociale qui est un des problèmes majeurs et qui génère l'instabilité sociale et les conflits. On a tendance à regarder Israël de mauvais œil actuellement. Mais en réalité, toute proportion gardée, bien sûr, ce n'est pas très différent chez nous, en Occident. D'où la nécessité de mettre le mot « paix » au centre de nos préoccupations, sachant que chaque citoyen a sa place pleine et entière dans la société. Pour moi, c'est beaucoup plus fort qu'intégration, qui pour moi veut dire, par bonté, j'accepte quelqu'un qui n'est pas comme moi. Donc ça commence par là, mais après, il y a l'identité, l'égalité. Daniel Barenboim part du principe que la culture favorise le contact entre les gens et peut les rapprocher et leur permettre de mieux se comprendre. C'est à la raison de la création de l'orchestre West Eastern Divan qu'il a fait en réunissant des musiciens d'Israël, de Palestine et d'autres pays arabes. Par ailleurs, pour lui, la musique populaire n'est pas la solution à la crise de la musique classique. L'accessibilité ne passe pas par le populisme, elle passe par un intérêt, une curiosité et une connaissance accrue. Et nous espérons bien que les émissions Par ici les sorties servent aussi à cela. Alors, il y a tout ce qu'on peut dire, mais il y a aussi la réaction ce que j'appellerais la réaction du terrain. Voici de quoi réfléchir pendant ce mois d'hiver. Avant de vous faire écouter un nouvel extrait musical évoquant la paix, j'aimerais vous citer ce que j'appelle une réaction du terrain, une auditrice qui nous fait part de ce qu'elle ressent. Elle dit « Dans la musique, il y a tant d'exemples de beauté absolue. Personnellement, je pleure d'apaisement et de gratitude chaque fois que j'écoute l'adagio du concerto en sol de Ravel. J'ai l'impression du dernier voyage vers le paradis ou ce que j'imagine être la fin de notre vie terrestre et notre arrivée vers l'apaisement ultime. Une illumination impressionniste, chaque entrée d'instrument me raconte une histoire ou me raconte la création et me bouleverse. Difficile de décrire mon émotion, mais il y a une certitude. Cela m'évoque la vie céleste, l'aboutissement heureux de notre cheminement terrestre sous la protection d'un être suprême, bienveillant, qui nous attend et nous ouvre les bras. En tout cas, cette musique me rend heureuse, paisible, reconnaissante et pleine d'espérance ou de complétude. Allez savoir. De toute évidence, il s'agit d'une personne croyante, mais la musique, qui est de Ravel, est définitivement profane. Et je reviens donc à ce que je disais au début. Pour moi, il n'y a aucune différence entre musique profane et religieuse pour vous qu'elle soit bonne. Je vous souhaite un joyeux Noël et j'espère vivement que cette émission a contribué à ce que vous ayez le cœur en paix pour entamer la nouvelle année. Nous nous retrouverons début 2023 pour parler de musiciens tchèques exceptionnels que les samedis musicaux auront l'immense joie d'accueillir à Lucé et à Épernon, le Quatuor Talisch. Un grand merci à Simon, le technicien de Radio Grand Ciel, à qui je demanderai de mentionner exceptionnellement les liens pour écouter en entier le concerto numéro 61 de Beethoven et le concerto en sol de Ravel, dont nous ne pourrons que diffuser des extraits, enfin au moins l'adagio du concerto en sol de Ravel. Pour terminer l'émission, je vous conseille de vous installer dans un fauteuil pour écouter sereinement l'adagio du concerto en sol de Ravel, dans l'espoir que vous ressentirez également une paix intérieure comme notre auditrice dont j'ai relaté les paroles. Je vous dis à très bientôt et bonne fête.